L'envie d'en vivre.
L'émission de celles et ceux
qui vont de l'avant.
L'envie d'en vivre.
Vous êtes toujours à l'écoute sur Fréquence Mistral, vous écoutez l'émission L'envie d'en vivre en compagnie de nos 10 invités. Nous sommes là pour vous partager nos parcours d'auto-entrepreneurs sous toutes ses facettes. S'engager vers ce statut d'auto-entrepreneur est souvent le résultat d'une grande réflexion, voire d'une remise en question de nos expériences passées. Nous avons la chance d'avoir avec nous des parcours inspirants qui, pour certains, vont nous faire voyager et ouvrir un peu nos horizons. Lola, par exemple. Il me semble que tu es revenue en France que depuis un an seulement.
Oui. Ça fait un an que je suis rentrée en France, mais ma rencontre avec le monde de l'entrepreneuriat est bien antérieure à ce retour. Elle a eu lieu, cette rencontre, à la fin de mes études. J'étais en train de me spécialiser en montage de projets européens. J'ai fait ma dernière année d'études en alternance dans un pôle de compétitivité. Alors, les pôles de compétitivité, c'est des structures qui ont pour mission de faire collaborer le monde de la recherche scientifique et le monde des entreprises. Et donc, il y a un gros volet d'accompagnement aux entrepreneurs et aux entrepreneuses. Donc, Barbara, il y a beaucoup de points communs avec ce que tu fais et avec tout ce que le réseau Initiative Alpes-Provence fait. Et donc, à la fin de cette année d'alternance, j'ai été embauchée dans la structure. Et après quelques années à côtoyer des personnes qui donnaient justement vie à leurs projets et à leurs rêves, j'ai eu envie de me lancer aussi. D'autant que fréquenter toutes ces personnes m'avait bien montré que monter son activité est possible. Alors, j'avais rencontré des personnes super motivantes qui avaient concrétisé leurs projets dans plein de domaines, en sciences, en santé, dans l'éducation, dans les médias. Enfin voilà, vraiment, c'était très varié. Alors, il se trouve qu'au même moment, j'ai fait un voyage en Islande, en vacances, et l'envie d'entreprendre s'est mêlée à l'envie de voyager et de vivre une aventure. Le projet, à l'époque, c'était monter un gîte touristique qui pratique des petits prix, en Islande donc. Alors j'ai rendu mon appartement, j'ai démissionné de ce travail dans le pôle de compétitivité et je suis partie en Islande avec mon amoureux Laurent qui est aussi autour de cette table aujourd'hui. Au début, on a commencé par faire du volontariat et puis au bout de plusieurs mois, 10 mois, dans un tout petit village du nord de l'Islande, on a eu l'opportunité de reprendre à notre compte une maison d'hôte. Donc c'est ce qu'on a fait et j'ai géré cette toute petite entreprise pendant 6 ans. C'était celle-là, ma première expérience en tant qu'entrepreneuse. Je suis fière de vous dire que le projet initial a été réalisé. On était bien l'hébergement le moins cher de toute la région. Bon, pour en revenir à nos moutons, ça c'est une petite blague pour celles et ceux qui connaissent l'Islande et qui savent qu'en Islande, il y a plus de moutons que d'habitants. À l'été 2025, on est donc rentré en France. Pour plusieurs raisons que je ne vais pas détailler aujourd'hui, on s'est installé à Manosque. Et là, j'ai décidé de créer donc à nouveau une micro-entreprise et d'utiliser mon expérience et mes compétences dans le tourisme islandais pour proposer mes services à des agences de voyage qui organisent des séjours en Islande. Vous imaginez bien qu'après une telle expérience, j'avais vraiment du mal à envisager de retourner à la vie classique de salarié avec les horaires fixes, un nombre de jours de congés imposés, même des dates de congés imposées, des comptes à rendre, à une hiérarchie plus ou moins bienveillante, avoir des collègues plus ou moins bienveillants.
Avant cette aventure islandaise, ce qui a été déterminant, je crois, pour ma part, la curiosité. Après des études de géographie, j'ai décidé de faire ce qu'il me semblait essentiel, c'est-à-dire apprendre à construire une maison, en faisant de la rénovation par la suite, puis produire de la nourriture, c'est ce que j'ai fait ensuite, en tant que saisonnier en maraîchage, et pour l'association Le Fruit des Glaneurs. Prendre part aussi à l'organisation d'un autre monde que le modèle proposé aujourd'hui. Je travaille donc pour devenir un paysan, c'est-à-dire que je souhaite vivre de mon país, c'est-à-dire le territoire, et d'en prendre soin. Pour être tout à fait honnête, j'ai voulu retrouver ce qui m'a le plus manqué en Islande, travailler dans les arbres, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la blague la plus populaire des Islandais ? Alors c'est celle-là. Que faire lorsque l'on se perd dans une forêt islandaise pour que les secours nous retrouvent ?
Lola, tu dois savoir, il n'y a que les Islandais qui peuvent savoir.
Eh bien, il suffit de lever les bras ! Car les arbres sont tellement petits dans les forêts islandaises que si vous levez les bras, vous dépasserez.
D'accord. Pour ma part, j'ai depuis plusieurs années travaillé dans les bureaux, dans la comptabilité, dans les logiciels. Et j'ai senti que ma place n'était plus assise sur une chaise à regarder un ordinateur, J'avais besoin de vivre différemment et puis je l'ai senti lorsque j'ai commencé à être malade et puis de plus en plus. J'avais perdu l'envie de continuer et doucement, j'ai bel et bien touché le fond. Aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est de savoir partager le goût de l'instant présent. Et c'est ce que je souhaite apporter avec mon salon de thé. Je remarque que certaines situations nous remettent à notre place et je suis certaine d'être cette fois-ci à ma place. Toi, Hélène, quel est ton parcours ?
Mon parcours, ah là là, il a été fort en émotions, mais si enrichissant. Petite, je grandis à la ferme chez mes grands-parents. Ce seront mes meilleurs souvenirs d'enfance. En grandissant, je subis des violences verbales très fortes de la part de mes parents. Je me renferme sur moi-même et je fais énormément de sport. Ça, c'est vraiment un exutoire. Envie de faire sport-études, sauf que mes parents me disent « Tu aimes cuisiner, il faut choisir ce métier ». Alors c'est ainsi, me voilà en bac pro cuisine. C'était chouette, j'ai appris énormément. Je n'ai jamais lâché, même à chaque fin de stage, de contrat. Mais je savais au fond de moi que ce n'était pas pour moi, que j'avais envie d'extérieur. Ce métier me permettait de travailler le soir, le week-end, ne plus penser à mes parents et à ces moments très compliqués. Je me revois petite dire à ma grand-mère que j'ai envie de créer, monter mon entreprise et aider les gens. Si je propose aujourd'hui un accompagnement sur le bien-être des adultes et des enfants, c'est parce que j'ai fait un burn-out à 30 ans. J'ai fait ce voyage intérieur comme j'aime le nommer. Travailler sur les blessures d'enfance, les émotions, ma valeur, ma confiance en moi, etc. La thérapie que j'ai suivie m'a amenée à m'ouvrir à d'autres horizons. J'ai vendu des cuisines, moi, qui pensais que c'était impossible. Exercice très enrichissant. J'ai fait ça pendant un an, avant de suivre mon conjoint dans le sud de la France, sur Manosque. J'ai toujours su, au fond de moi, que je voulais aider les autres, accompagner avec bienveillance et une profonde envie de transmettre. Alors, ce changement de région dit « nouveau départ ». Je trouve un travail chez Couleur Paysanne, une coopérative d'agriculteurs où on vend leurs produits. Quelques mois plus tard, fin avril 2026, je me lance à mon compte en parallèle. Je crée ma micro-entreprise. Aujourd'hui, je réalise pas à pas ce rêve, accompagner à mon tour celles et ceux qui en ont besoin, car j'aurais aimé plus jeune avoir quelqu'un qui puisse m'aider. L'humain, l'échange, ça me passionne profondément. On peut tous y arriver. Retrouvez-moi sur Instagram Le Voyage d'Hélène et sur mon site levoyagedhélène.com si vous voulez en savoir plus. Et je laisse la parole à Leïla.
Merci Hélène. Je vis au Maroc. Il y a une dame qui m'a demandé la main pour le fils et j'ai accepté directement. Et comme j'ai rentré à la France, c'est un mari que je n'ai jamais connu, ni le visage, ni rien. Je rentrais à la France la fin du mois 2008. Et là, j'ai regardé un autre changement. C'est un mère, le visage il est tombé. Déjà, il n'y a pas un sourire. Et moi, toujours, je sourire avec ma famille.
Donc en fait, il y a une dame là-bas au Maroc qui connaissait ta famille et qui a demandé que tu viennes te marier avec son fils, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
D'accord. Et quand tu es arrivée en France, la dame a totalement changé.
Oui, c'est ça. Là-bas, il montre un autre sourire avec ma famille aussi. Je rentrais, je trouve notre vie, comme je réveille, c'est comme un rêve. Même quand on regarde un film, petite, c'est pareil.
C'est plutôt un cauchemar, non ?
Ah oui, c'est pire pour moi.
Donc j'imagine que tu as vécu des choses difficiles pendant plusieurs années. Jusqu'à ce que tu arrives à Manosque. Comment tu es arrivée à Manosque ?
Comme j'ai marié, j'ai rentré en 2008, la fin 2008.
France.
À la France. J'ai rentré avec ces dames, on a vécu à la maison. Première soirée, je rentrais à minuit, comme toutes les jeunes femmes. Alors, ils sont contentes, ils vont trouver le mari, les comment, voilà. J'ai rentré et je trouve toute seule avec elle. Dans une chambre dans le coin, j'ai commencé à faire le ménage aussi, pour je dormir tranquillement, vers 3 heures du matin. Là, c'est le cauchemar. J'ai regardé un bruit, crié, j'ai dit mais c'est quoi ça ? Le premier jour comme je rentrais à la France, c'est première soirée. J'ai regardé c'est les filles, elles sont pas bien. Et après je regarde aussi le fils, il a ramené vers 3 heures du matin. Et après là, je sais il y a une chose, ça marche pas, c'est pas normal parce que c'est un mec, il me décape. C'est pas la faute de lui, mais c'est la mère.
Tu es restée combien d'années là-bas ?
J'ai commencé déjà une semaine pour faire le ménage. La première chose, j'ai même pas reposé, même pas me montrer à la France c'est quoi, même pas information, même pas c'est quoi la loi, c'est comment tu peux faire, voilà. J'ai resté la première chose, le ménage.
Pendant combien d'années ?
Pendant de mois, oui, jusqu'en 2000, 2011. Et 2011, mais par contre, moi, j'ai pas resté longtemps parce qu'elle est là aussi, il a profité pour le ménage. Comme j'ai dit, le mari, mon ex-mari, il était, il connaît rien, c'est comme un bébé. Il faut que je lave, il faut que je brosse le cheveu, il faut que je fais le repas. Oui, je sais, il faut que je fais le repas, c'est normal. Mais il y a des trucs bizarres aussi, je veux pas parler, mais j'étais, la vérité, comme l'esclave, il faut que je fais obligatoire le ménage, il faut que je fais obligatoire le jardin. Si je fais pas le jardin, elle est pas contente. Pour réveiller 4 heures de matin, et plus tout ça, comme je parlais toujours, il y a un truc, je enlève ton passeport, voilà, tu veux pas ni partir ton pays, ni t'es à la France, comme je n'existe pas dans le monde.
Bon, heureusement, à un moment donné, il y a quand même des dispositifs, des associations qui aident les femmes, en tout cas, victimes de ce genre de situation et de personnes. Donc, tu as été aidée et amenée sur Manosque au foyer pour les femmes à Manosque.
Oui, c'est ça. C'est le premier jour parce que j'étais... je ne connais pas, je fais quoi le soir-là. Il pleut. Et j'ai une dame, il a dit, voilà, tu veux faire une plainte. J'ai dit, comment? Tu es partie à la police? J'ai dit, non, je veux partir à Maroc. Il a dit, non, tu as le droit, tu as les papiers, vous faites, il vaut. Tu es déjà, parce que j'ai un contrat aussi. Il a dit, non, tu veux partir chez la police, vous faire plainte. J'étais partie chez la police. Heureusement, la police aussi, elle est là. La police, elle me sépare. J'étais partie, ils sont envoyés, le foyer, contacter le foyer direct. Franchement, là, ça commence le changement. Là, ça commence couper mon cheveu, changer mon physique. Et la surprise, j'étais sainte.
Enceinte.
Ou sainte. Et je connais pas. Et ma assistante, il a dit non, il faut regarder. Comme on va prendre le rendez-vous avec le gynécologue, ça passe. Déjà, j'étais 2 mois dans ma ventre. Il faut prendre un rendez-vous. Déjà, c'est, je pense, 2 mois ou 3 mois. Et après, comme j'ai parti chez le docteur gynécologue, il a dit, t'es 5 mois déjà, il bouge trop. Je ne connais même pas.
Donc, à partir de là, arrivé sur Manosque, tu as pu commencer à faire du bénévolat, des activités?
Oui, ça commence là. La première chose, j'ai commencé à flécher le bébé de ma ventre. C'est le bonheur, c'est ma famille, c'est tout.
Tu as travaillé?
J'ai commencé à faire à maison, un appartement de moi et mon fils. Et après, je commençais à travailler. Et après, je fais bénévolat et j'ai rencontré Barbara, 2018.
À Croix-Rouge.
À Croix-Rouge. On a passé des beaux moments. 2019, j'étais travaillée aussi dans le restaurant, j'étais travaillée commerce, j'étais travaillée la cantine, la garderie, à l'école, toute l'école remplacement, toutes les places par contre à Manosque. Et après, le premier jour d'un jour, j'ai marché au centre-ville parce que moi, j'aime bien chercher c'est quoi. J'ai trouvé le centre social au réseau de Manos.
Voilà, où tu as commencé à faire.
J'ai trouvé c'est quoi la première personne.
C'est Barbara.
C'est Barbara et à Notre-Dame. C'est Laurine.
Et Laurine.
Laurine.
Et là, tu as commencé à faire.
J'étais fermée un peu, je ne connais pas, je ne veux pas sortir, je rencontre les gens et tout ça. Et là, il m'a montré pour il y a une sortie, aider pour les femmes, la sortie de la famille, l'activité, le sport, l'activité pour les enfants. Et là, j'ai commencé à faire de l'activité avec le centre social, le réseau de Manos. Et là, j'ai commencé à faire le tato de Hané, Fima. Et après, ils m'a proposé, et ils sont trouvés si jolis, il a dit, pourquoi vous n'êtes pas ouvert un petit projet, Pronor, 2023, ça commence. Et après, ça a été compliqué, ça ne marche pas. 2023, 2024, 2025, ça stoppe là. Avec toujours Barbara.
Et de 2023 à 2025, tu n'as rien fait avec ton entreprise, puisque au niveau administratif, il y avait des petits soucis, donc ça n'a pas pu se développer. Et quand on s'est rencontrés en 2025 par rapport à ton entreprise, on l'a fermée et on a réouvert et on a tout recommencé de zéro.
Et maintenant, c'est beau, je suis entrepreneur, il a fait le démarche, tout comme il faut.
Mais tu travailles toujours, je crois, hein, c'est une activité complémentaire, tu as un travail salarié à côté.
Ouais, mais des remplacements, ça ne se fait pas, mais j'aimerais bien trouver un travail bien, maximum 4 heures. Et mon rêve, c'est comme on dit, Inch'Allah, on va faire un boutique.
Ah, super.
Un rêve pour moi et pour mon fils. Et je laisse la parole à Nada.
Je suis née en Guinée-Bissau. J'ai 3 enfants là-bas. Après, mon mari, il est venu en Portugal. Après 8 mois, il m'a fait venir. Après 2 ans, on a fait les demandes pour nos 3 enfants. Ils sont arrivés, ils ont continué là-bas à changer tout. On a mis les enfants toujours à l'école, qui s'est obligé. Et après, je travaille dans une grosse boîte d'entreprise, mais toujours les ménages. Après 9 ans, 8 ans, j'ai tombée enceinte et mon mari, il trouvait un contrat, il vient travailler ici en France. Après, j'ai couché mon enfant, que c'est j'ai mon garçon, une fille. Après 3 mois, mon mari nous fait venir avec mon deuxième enfant. Et troisième, après les jumeaux. On arrivait ici à Manosque, on a fait les demandes de maison et on a donné la maison d'HLM à Folkalkier. Après, j'arrive à Folkalkier, je ne connais pas personne. Je connais que les bonjours, pas plus. Après, j'ai commencé à regarder les films, comme ça j'apprends un peu français à plus. Mes enfants, comme ils sont à l'école, ils font les cours de français. Après, à la maison, ils m'enseignent un peu. On dit comme ça, on dit bonjour. Quand on voit personne, on dit ça va, tout va bien. Comme ça, j'ai commencé à apprendre en petit à petit. 2 ans après, je cherchais pour travailler. Je ne sais pas où commencer. Je demande à une dame qui s'appelle Ouria, c'est ma copine, c'est argélienne, qui me demandait, tu veux travailler? J'ai dit oui. Il m'a demandé, tu as du permis? J'ai dit oui, j'ai du permis portugais. Il m'a dit, ok, je vais aller en vacances. Tu peux me remplacer? Je vais demander mon patron. J'ai dit oui. Après, elle a demandé son patron, son patron me prendre. J'ai commencé, j'ai fait 1 mois. Après son retour, il m'a donné l'autre chantier qui m'a donné CD depuis 2019. La grosse boîte, j'ai travaillé pour ça. Mais toujours mon rêve, c'est de créer mon propre entreprise parce que j'ai déjà l'expérience et tout ça. Comme ça, j'ai travaillé là-bas. Après, j'ai commencé à chercher jusqu'à maintenant. Après 4 ans à Folkalkier, les enfants, pour aller retour, mon mari travaille ici. Folkalkier, c'est un petit village. C'est difficile de trouver de plus de travail. Ils ont fait les demandes de changement de maison. On retourne ici à Manosque. Après ici, je continue à travailler, aller à Folkalkier toujours. Jusqu'à maintenant, parce que j'ai 2 boîtes que je travaille maintenant. Comme j'ai mon rêve de créer mon propre entreprise, comme je vous ai dit, avant, je cherche sur l'Internet, j'ai trouvé sur CiteLab, Barbara, elle est là, elle est excellente, toujours. Je suis lancée. Maintenant, mon enfant, et après, on fait venir les plus grands. Maintenant, il y a 28 ans, elle a son licence dans le design métallique. Construction et réalisation. Il est deuxième, il est fait électricité industrielle. Il est troisième, il entend rentrer dans l'école de médecine. Il fait l'alternance. Et après, les jumeaux, ils ont 10 ans. Et les garçons, ils font le foot. Et les filles, ils font la danse. Merci.
Merci beaucoup à tous pour vos partages poignants et votre confiance. Nous allons maintenant écouter ce que pensent nos concitoyens de cette nouvelle manière de travailler, plus libre, plus riche, mais peut-être aussi plus risquée.
Pour cela, chers auditeurs, nous sommes venus à votre rencontre pour savoir si, comme nous, dans le contexte actuel, vous oseriez vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Voici la deuxième partie de notre micro-trottoir enregistrée dans le dédale du vieux Manosque.
Est-ce que vous vous lanceriez dans l'entrepreneuriat dans le contexte actuel et pourquoi ?
Moi, personnellement, je le suis, mais c'est pas évident non plus par rapport aux taxes, par rapport au fait qu'on nous demande de créer de l'emploi, mais ils nous facilitent pas non plus la tâche par rapport à plein de trucs.
Et dans quelle branche vous êtes entrepreneur ?
Dans l'artistique, art du spectacle, comédien.
Pas du tout. Je me lancerai pas du tout aujourd'hui. Parce que je me suis lancé il y a quelques années, c'était très bien. Et aujourd'hui, je vois tout ce qui se passe et je dis non, stop.
Non, pas du tout. Il y a la crise, pas envie de ça.
La seule façon de s'engager, ce serait de faire quelque chose d'écologique et d'économiquement intéressant pour tout le monde.
Moi, non, parce que beaucoup trop de démarches, lien administratif qui me correspond pas. Un truc trop prenant.
Oh oui, mais on est déjà entrepreneur, oui.
Vous êtes entrepreneur dans quelle branche ?
Moi, dans le commerce.
Moi, dans le forestier. Moi, je suis entrepreneur de travaux forestiers, donc j'ai des contrats long terme avec l'ONF au sein des forêts françaises, donc pour l'entretien. Le contexte actuel, ouais, il est compliqué avec le l'essence, du gasoil, du GNR. Se lancer tout de suite, si ça avait pas déjà été créé, ça aurait été compliqué. Ouais.
Oui, nous, dans le commerce, on le voit aussi au niveau de la clientèle. Les gens sont plus réticents à consommer en magasin et ils préfèrent faire attention, ce qui est normal.
Alors oui, mille fois oui, parce que je pense qu'il faut jamais se laisser ni abattre, ni distraire par le monde qui nous entoure ou tout ce qu'on peut dire ou les gens qui vont dire bah justement c'était mieux avant, etc. Non, 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 ce sera mieux après. Donc oui, oui, moi je suis très positive et je trouve qu'il faut faire des projets, monter des entreprises, faire ce qu'on a envie et réaliser nos rêves, ouais, carrément.
Un vent d'optimisme souffle sur Fréquence Mistral. Oh, quelles énergies! Je trouve très intéressant qu'à travers les propos recueillis, on puisse saisir l'ensemble des préoccupations qui nous traversent en tant qu'entrepreneurs. Par exemple, mettre en avant une vision du travail centrée sur l'humain, ou bien construire un futur adapté à nos besoins collectifs, ainsi que celui d'entreprendre en conscience de notre environnement et de tout le stress que subit notre société. Alors au fond, entreprendre, n'est-ce pas construire un futur désirable tout en étant ancré dans l'actualité et le quotidien ?
Mais justement, ça ressemble à quoi le quotidien d'un entrepreneur ? J'imagine qu'il y a autant de quotidiens que d'entrepreneurs, non ? Mélanie, à quoi ressemble ton quotidien ?
Pour moi, gérer une entreprise, c'est avant tout porter une multitude de casquettes. Le plus difficile, ça va être le démarchage. Si mon expérience dans le commerce, elle va me permettre d'aborder chaque projet avec une vision créative, technique et commerciale que je vais mettre au service des clients. Quand on est entrepreneur, il faut s'auto-vendre. C'est nous, c'est juste moi que je vais présenter quand je vais voir des potentiels clients. C'est mon travail que je dois mettre en avant. Et je trouve que c'est très différent de lorsque l'on représente une structure.
Moi, je trouve pas que ce soit très difficile de se mettre en avant. Mais après, c'est peut-être par rapport à notre parcours, parce qu'on arrive sur Manosque et de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on parle aux gens pour se faire des amis et aussi, du coup, pour notre propre entreprise.
Par rapport à ça, moi, je sais que ce qui m'a aidé au départ à me mettre en avant et à parler aux gens, c'est parce que j'avais des enfants, que du coup, je côtoyais plein de structures et c'est ce qui m'a permis aussi d'avoir des contrats dans des collectivités pour faire des projets. Donc, c'est vrai que ça, ça m'a aidé. Maintenant que les enfants grandissent, j'avoue qu'il faut que je trouve un autre biais de réseautage, on va dire, pour faire évoluer mon entreprise, quoi.
Oui, moi, les miens, là, ils ont 15 ans, donc c'est sûr que je ne vais pas pouvoir m'appuyer sur leurs camarades ou les établissements qu'ils fréquentent pour pouvoir développer mon entreprise, dans mon cas, en tout cas. Après, moi, du coup, j'avoue aussi que faut que je me fasse violence pour avancer sur le démarchage, parce qu'avec la partie créative, entre partir en prospection ou créer une pièce unique, mon cœur, il choisit vite son camp. Et j'adore créer. C'est aussi une liberté que m'offre ce choix d'être à mon compte. Je fais de la peinture depuis des années et j'avais déjà installé un atelier dans une pièce de la maison. Donc pour tout ce qui est fabrication de décors, d'abat-jour, en fait, j'apprécie de pouvoir travailler quand je suis la plus efficace. Et ça va être le week-end, le soir. Ça peut être n'importe quand, en fait. Je ne suis pas obligée de suivre un rythme imposé par une personne ou tout simplement des besoins aussi d'un commerce, d'un restaurant. Et justement, comme mes enfants ont 15 ans et ne m'apportent plus d'intérêt via les écoles, il y a par contre l'avantage qu'ils soient complètement autonomes. Et du coup, j'ai beaucoup plus d'autonomie moi-même dans mon temps parce que j'imagine bien que tous ceux qui ont des petits bouts de choux, au niveau organisation, vous devez vous adapter avec les horaires des écoles pour aller les chercher. Enfin, c'est, j'imagine, beaucoup plus compliqué pour vous que pour moi vis-à-vis des enfants.
Tout à fait. C'est exactement ça.
Après, le lancement d'une entreprise implique un investissement constant. J'y pense tout le temps. Quand je balade, quand je vais voir des expos, pendant des repas avec des amis. Et en fait, le pire dans cette situation, c'est que ça me plaît. En fait, ça me plaît d'avoir tout le temps des idées pour cette entreprise, d'avoir des idées nouvelles de création et de pouvoir mettre en place ces projets et leur donner vie. Après, voilà, faut préserver, je pense, quand on est entrepreneur, un équilibre professionnel et vie privée. Du coup, j'ai tendance à noter, à dessiner mes idées sur un carnet. Comme ça, je libère mon esprit. Par contre, quelque chose qui ne libère pas mon esprit, c'est la question financière, forcément. Je pense que l'incertitude, elle fait partie du parcours d'un entrepreneur. Et je me dis aussi que chaque jour suffit sa peine et qu'on y croit, on avance et les choses se feront par elles-mêmes.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Mélanie. La dynamique du foyer et ses contraintes jouent énormément sur les décisions de se mettre ou non en micro-entreprise. Donc c'est vrai que moi, je l'ai fait, j'avais mes deux enfants en bas âge et du coup, ça me permettait de développer mon activité petit à petit, sans trop de pression et en même temps de garder énormément de flexibilité horaire pour m'occuper de mes enfants parce que c'était vraiment, et c'est toujours ma priorité. Maintenant, c'est vrai que pour que je puisse développer en fait mon activité et que financièrement ce soit plus intéressant pour moi, il faut que j'arrive à jouer sur ce levier vie pro, vie perso. Et c'est un peu le gros challenge d'une auto-entreprise et d'être son propre patron en fait. Au niveau de mon quotidien, par contre, du coup, c'est vrai qu'il n'est pas du tout routinier, mais il s'organise plutôt selon des tâches très, très particulières comme la création, donc ça c'est évidemment la partie la plus fun pour moi, l'administration, le démarchage, le réseautage et la communication. Et ça, il faut vraiment travailler tous ces points parce que sinon, ça n'avance pas en fait. Il y a toujours un frein quelque part qui va se mettre et qui va un peu enrayer la machine, on va dire.
Tu veux dire que les clients n'arrivent pas tout seuls ?
Et non, malheureusement, ils n'arrivent pas tout seuls. Mais après, ce qui est chouette, c'est que quand même, on a une région où il y a plein de structures d'aide qui permettent de réseauter et d'aller chercher un peu, enfin de parler en tout cas à d'autres personnes dans le même, pas dans le même milieu que soi, mais d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes difficultés. Et du coup, ça permet de créer peut-être de futures collaborations ou en tout cas une entraide, quelque chose, un début d'émulsion qui peut arriver. On ne sait jamais d'où ça va arriver en fait. C'est ça qui est magique aussi. Pour finir, il m'est difficile aujourd'hui d'imaginer retourner à des horaires fixes et contraignants d'un travail d'employé, en fait. Parce que vraiment, cette liberté horaire est incroyable. Et aussi, je trouve que le métier d'auto-entrepreneuse, ça te challenge, en fait, sur tellement de points. Et du coup, c'est tellement riche par rapport à un métier de salarié où on te demande de faire une tâche et puis tu vas la répéter jour après jour. Je trouve que même si c'est difficile, c'est contraignant, parfois on a envie de pleurer, mais ça procure aussi énormément de joie. Et chaque petite réussite, en fait, c'est vraiment, on se la doit qu'à soi-même. C'est merveilleux, quoi.
Moi, mon expérience d'auto-entrepreneur, elle a commencé en Islande et se prolonge finalement en France. Je trouve très intéressant de comparer les deux situations dans les deux pays. Alors ici, les démarches sont quand même beaucoup plus complexes et beaucoup plus encadrées pour déclarer une activité, alors qu'en Islande, à l'inverse, beaucoup de choses se font a posteriori, c'est-à-dire qu'on peut lancer une activité et ensuite régulariser sa situation. Que l'on soit salarié ou auto-entrepreneur, il y a une obligation syndicale pour tous, donc une facilité d'accompagnement de facto. Ainsi, pour l'auto-entrepreneur, on a les mêmes droits que tous les autres travailleurs, c'est-à-dire droit au chômage, droit aux congés parentaux, et même des droits, des avantages équivalents à ceux d'un CE, d'un comité d'entreprise, comme une aide pour le sport, la mise à disposition de lieux de vacances à prix préférentiel, etc. Et malheureusement, en France, j'ai l'impression que les politiciens entretiennent le bien-être des patrons des grandes entreprises sous de faux prétextes de compétitivité économique, plutôt que la liberté d'entreprendre et le droit à une vie digne. Et malgré tout, je crois quand même qu'on peut y arriver à trouver sa voie en France. Surtout quand on peut compter sur des gens bienveillants, un territoire robuste et plein d'alternatives. Il y a quand même beaucoup de gens qui privilégient les échanges non marchands autant que possible. Et je pense que c'est important de le rappeler. C'est pas parce qu'on est entrepreneur que tout doit devenir payant et se rapporter uniquement à la réussite économique. Dans le milieu agricole, il y a énormément de services rendus, d'échanges de matériel, de travaux effectués qui se basent plus sur le temps, le don ou bien même le plaisir partagé que simplement l'argent. Alors certains travaillent en échange de repas, de vin, d'autres organisent des guinguettes gratuites. On peut aussi travailler en échange de l'emprunt d'un outil ou bien produire sur des terres en échange d'une partie de la récolte plutôt qu'un loyer. Ces solutions existent, elles construisent du lien et de la liberté hors du système marchand. Alors les multiplier autant que possible et en faire la publicité, surtout aux plus jeunes générations, c'est à mon avis une des clés pour qu'on se modèle un avenir plus humain. Alors nous ne sommes ni les premiers ni les derniers entrepreneurs, et je dirais que l'essentiel c'est d'avoir envie et d'essayer d'en vivre.
Laurent, pour revenir à ce que tu dis sur les échanges non marchands, je connaissais un peu ton point de vue là-dessus, et je voyais pas forcément comment intégrer cette notion à mon domaine. Finalement, j'y ai repensé hier soir et je me suis dit que je serais totalement prête, par exemple, à réaliser une fresque pour un maraîcher qui veut mettre en lumière un peu son local ou là où il travaille contre des paniers de légumes, par exemple. Ce serait totalement faisable pour moi. Et du coup, effectivement, je pense que cette économie, en fait, pourrait fonctionner pour énormément de choses, quoi, et énormément de gens. C'est juste qu'il faut switcher un peu l'idée qu'on a de devoir toujours échanger de l'argent contre quelque chose et d'échanger quelque chose contre quelque chose, tout simplement.
Moi, Lauriane, je suis complètement d'accord avec cette idée-là aussi et c'est un peu ce que je vais prôner aussi.
En tout cas, si je peux me permettre, pour ceux qui démarrent, et qui ont du mal à trouver des clients, se faire du réseau, etc., un peu comme toi, Océane, ou d'autres, il ne faut pas hésiter, en fait. C'est un petit peu l'idée au départ, c'est de proposer son service contre un autre service et aussi de partager ça, cet échange-là, sur les réseaux sociaux, sur les réseaux de communication, pour que votre activité soit visible de plus en plus sur le territoire.
Pour moi, Hélène, donc être entrepreneur, c'était un de mes rêves. J'accompagne des femmes et des enfants. Mon quotidien est très riche, car j'échange avec des gens qui ont des parcours de vie incroyables. Que ce soit positif ou négatif, c'est tellement enrichissant. On apprend, on grandit, on avance pas à pas, on sort de sa zone de confort aussi. On fait des rencontres. Je suis passionnée et je travaille avec le cœur, et ça n'a pas de prix. Ce que je trouve difficile, c'est de se créer un réseau. Surtout quand on change de région comme moi, ou on part à l'autre bout de la France. Mais petit à petit, ça va se faire. Rome ne s'est pas faite en un jour. Eh bien là, c'est pareil. Il faut être patient et ne jamais rien lâcher. Un autre point qui me paraît important de souligner, ce sont les taxes sur les entreprises. La moitié de ce que l'on gagne va dans les charges pour les impôts, l'État. C'est un petit peu compliqué quand même, je trouve, quand on démarre. Cela peut vite décourager. Mais bon... Quand on est passionné et qu'on a envie de créer, il faut y aller. Mon quotidien n'est jamais vraiment le même, car il y a toujours de quoi s'occuper. Déposer des flyers pour se faire connaître, participer à des événements, proposer des ateliers, etc. Me former régulièrement pour apporter toujours plus de valeur à celles et ceux qui viennent me voir pour un soin. Je suis reconnaissante d'avoir des capacités pour couper le feu, des ressentis pour aider. On est fait d'énergie et accompagné à mieux vivre certaines situations, c'est vraiment très beau. Si nos auditrices, auditeurs souhaitent découvrir les soins énergétiques, voici le code. L'envie d'en vivre, fréquence mitrale, à me donner lorsque vous me contactez, qui vous offre 10€ sur un soin. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et Facebook, Le Voyage d'Hélène, et sur mon site, levoyagedhélène.com. Je vais laisser la place à Naïda pour nous raconter son quotidien.
Merci Hélène. Mon quotidien, c'est un peu dur parce que c'est pas facile de gérer deux choses ou trois choses en même temps. C'est gérer à la maison, gérer les enfants, gérer le travail et gérer l'entreprise. Parce que moi, j'ai toujours gardé mon boîte que j'ai en CDI à côté. C'est pas facile. En tout cas, on peut dire que c'est très très difficile pour moi parce que je connais pas bien la ressource. Internet pour chercher, bien chercher. Et maintenant, mes enfants, ils sont plus chez moi. Et mon mari, il travaille en déplacement. Ça veut dire que moi, tout seul, pour gérer tout ça, c'est pas facile. C'est dur. Et en tout cas, je crois que c'est à cause de ça que j'ai pas encore de clients parce qu'il y a trop de choses en même temps. C'est pas facile.
Et oui, Naïda, il faut avoir beaucoup de courage pour devoir gérer tout ça. Alors, chapeau. Pour ce qui est de mon nouveau quotidien d'auto-entrepreneur avec mon salon de thé, alors oui, c'est très rock'n'roll en ce moment. Toutes mes journées sont très différentes. Je postule à des événements juin, juillet, août. Il y a pas mal de festivités, donc je peux savoir au dernier moment si mon week-end est complet ou non. Voilà, devoir faire tous mes biscuits, démarcher, acheter des fournitures, des matières premières et puis jongler aussi avec ma vie de maman car... Oui, j'ai un enfant de 6 ans et donc l'école, l'escalade, enfin voilà. Le freestyle, c'est une organisation, c'est vraiment une question d'organisation, mais c'est le bonheur de pouvoir gérer mon temps aussi.
Moi, Leïla, je commence ma journée. Je sais, c'est un peu, je sais, c'est bizarre, mais j'ai commencé à 5h du matin. 5h du matin parce que j'ai préféré réveiller bonheur avec le soleil de Leïla aussi. Soin de moi, soin de ma maison, soin de mon fils, parce que si tout s'est passé bien le matin, à la journée ça passe très bien. Je suis comme un cheval à courir toute la journée. Je prépare mon repas de midi au soir, et après je fais une douche, je prépare le café, et après un petit déjeuner pour mon fils, je récupère à collège. Comme je récupère à collège, je suis tranquillement, je commence à rentrer, préparer mes affaires comme je fabrique, des tableaux, les sacs, le produit de Hané, voilà. Et après je sors pour chercher aussi CD travail, proposer tous mes produits de magasin, commerce, les sacs, les chaussures, les tableaux. Et aussi, je regarde mon site Facebook, Instagram, TikTok. Il faut aussi, j'ai acheté des produits, il faut que je ramasse, je regarde, parce que mes tableaux, comme j'ai dit, nature, j'y fabrique du truc, il faut que je cherche sur Manosque. Croix-Rouge, je parle des magasins, je demande, il ne faut pas jeter les boîtes, il ne faut pas jeter les plastiques, il ne faut pas jeter des bois. Bon, je fabrique mes tableaux aussi. Et après, comme toujours, j'ai contacté Barbara sur le téléphone 2 fois, 3 fois, 4 fois de la journée pour me donner des conseils aussi. Je fais quoi? C'est compliqué. Il faut m'aider. Voilà.
Je confirme, Leïla. Un jour, tu nous as dit, moi, quand je fais mes sacs, mes tableaux, je pose mon téléphone et j'y touche pas. En fait, je suis pas très sûre parce que moi, je reçois 10 coups de fil par jour de Leïla, mais il n'y a pas de souci.
Juste toi, Barbara. Juste toi. J'ai appelé parce que, bien sûr, parce qu'elle m'a donné beaucoup d'idées. Où j'envoyais des photos, des vidéos, c'est les biens, c'est pas les biens. Et après, voilà, je suis comme toutes les mamans, rentrer à la maison, continuer le repas, le ménage. Pour je récupérer à mon fils aussi, rentrer les mercredis, il fait les baskets.
Et préciser aussi que Leïla fait tout à pied ou en bus. Et donc, en plus de travailler salariée, d'avoir son entreprise, de gérer maman solo, son garçon, elle aussi s'entraîne pour le code et passer son permis. Voilà.
Voilà. Merci.
Moi, Lola, mon expérience de la création et de la gestion d'entreprise rejoint un peu les expériences de Mélanie, d'Océane, de Lauréane, dans la mesure où ça m'a toujours offert une liberté d'organisation qui m'est très chère. Comme elles l'ont déjà évoqué, je peux organiser mes journées, mes semaines, un peu comme je l'entends, en intégrant du temps pour ma famille, qui s'est construite en Islande, puisqu'on a eu un enfant quelques années avant de rentrer en France. Très concrètement, ça veut dire que je peux être disponible à la sortie de l'école et retravailler le soir une fois qu'il est couché. Je peux me permettre de garder mon enfant le mercredi, par exemple, et travailler une partie du week-end si j'ai besoin. Ce genre de choses. Bien sûr, je suis consciente et je le suis d'autant plus maintenant que j'ai entendu tous les témoignages à cette table de mon privilège. Et je sais que cette flexibilité est une grande chance, mais qu'elle est propre à mon expérience, ma situation, mon type d'activité. C'est pas du tout le cas de toutes les personnes qui se lancent dans la réalisation de leurs projets. Donc je salue d'autant plus le courage et les efforts de celles qui le font dans des situations quotidiennes beaucoup plus compliquées. Et la dernière chose qui est très importante pour moi avec cette liberté d'organisation, c'est qu'elle me permet aussi de m'engager bénévolement dans des associations ou des projets qui me tiennent à cœur et qui font pas encore partie de mon activité professionnelle. Parce que c'est pas parce qu'on a réalisé un rêve qu'on en a plus d'autres.
Merci Lola, j'imagine que Laurent contribue un peu à ce quotidien, non ?
Oui, bien sûr.
De temps en temps ?
Il est parfait.
Alors, vous avez fait tous le même choix, celui de suivre vos rêves, de vous émanciper, d'aller sur le chemin d'une liberté qui porte un visage tout particulier chez chacun. Si parfois l'auto-entreprise fait peur, il est surtout un cri d'espoir, l'espoir de changer les choses à notre échelle, de repenser notre société. Entreprendre, c'est retrouver son pouvoir créateur, celui que l'on avait tous enfant. Entreprendre, c'est reprendre les rênes de sa vie en établissant un cadre sécurisant. Entreprendre, c'est aussi construire du lien plus fort et plus durable. Un grand merci à tous pour vos partages d'expériences de vie.
Vous pouvez retrouver l'émission L'envie d'en vivre sur le site de fréquencemistral.com, onglet Manosque, ainsi que les coordonnées de CitéLab et de toutes les entrepreneuses et entrepreneurs que vous avez entendus. Au revoir et merci.
Au revoir.